Nous sommes un tout petit peu en ralenti dans cette étude de Matthieu parce que nous prenons le temps pour réfléchir sur les paroles de Jésus en ce qu'on appelle les béatitudes, donc ces phrases que Jésus prononce à la foule. Aujourd'hui, donc notre texte sera au verset 7, mais j'aimerais juste clarifier deux ou trois petites choses avec vous avant de continuer. Alors, quand nous lisons donc les versets 3 au verset 12, nous remarquons que chaque phrase commence avec heureux. Okay? Il dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim, etc. Donc il dit heureux ces différentes personnes. Et je suis profondément, disons, convaincu, après quand même pas mal de prédications sur ces différents textes, que Jésus n'est pas en train d'appeler les gens de vivre d'une certaine manière. Même si il y a des choses que nous pouvons apprendre de comment nous devons vivre. Plutôt, il est en train d'annoncer une bonne nouvelle à une société qui ne considère pas ces personnes bénies. Nous nous souvenons que Jésus se trouve donc au nord de la mer de Galilée. Et c'est un endroit qui est considéré comme impur. C'est pas la Judée, ce n'est pas Jérusalem. Nous nous souvenons que même Matthieu cite le passage que c'est dans les ténèbres de cette région, les ténèbres, que Jésus vient comme une lumière pour briller. Et donc, il y a cette idée de c'est un endroit qui est un peu écarté. C'est des gens qui sont plutôt exclus. Ce sont des gens qui sont isolés au niveau de leur foi et qui ne font pas partie des élites religieuses. Et à ces personnes, Jésus va dire, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pour plusieurs raisons. Il dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Okay? Il dit, heureux les pauvres en esprit, on a dit, hein, le royaume des cieux est à vous. Heureux ceux qui pleurent, car vous serez consolés. Il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et donc, chaque fois qu'il dit ces différentes choses, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les gens, ils sont étonnés d'entendre cela, parce que ce ne sont pas des choses qu'ils avaient entendues dans le passé. Tout ce qu'ils avaient entendu, c'est que puisque vous êtes comme cela, vous êtes écartés. Et la vie leur montrait cela aussi, que c'était les pauvres, que c'était les pleurants, que c'était les doux, que c'était ceux qui avaient faim et soif de justice, c'était les miséricordieux de Dieu qui sont souvent mis à l'écart. Ce sont, on va profiter de ces individus. On va pas leur mettre sur un piédestal. On va plutôt les abaisser. On va faire en sorte que eux, ils soient des perdants. Et Jésus est en train de dire à ces gens, je suis venu dans ce monde pour donner de l'espérance à vous. Et vous êtes heureux. À tel point qu'à la fin, il dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut être heureux en étant persécuté? Donc là, il va aller vraiment contre-culture. Alors, le but, c'est pas de dire, OK, maintenant, soyez pauvres en esprit, ou maintenant, pleurez, ou maintenant, etc. Toutes ces différentes choses. Nous pouvons apprendre que ce sont des cas comme cela qui répondent positivement à l'Évangile, mais ce n'est pas nécessairement une exhortation, c'est plutôt un constat qui fait Jésus pour les gens de l'époque. Et puis, à nous de nous mettre en garde, de ne pas tomber dans les pièges. Les pièges qui diraient, bon, nous sommes les bons, nous sommes les jolis, nous sommes les forts, etc. Parce que nous pouvons passer à côté du royaume des cieux. Et je crois que c'est cela que Jésus dit dans notre texte. Donc, cela nous amène au chapitre 5, le verset 7. Et merci à ceux qui ont déjà entendu ce petit discours trois, quatre fois. Je le répète, mais bon, on dit que quoi, la répétition, c'est la répétition, c'est la mère de l'enseignement, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que... OK, merci beaucoup pour ton aide. Bon, à mon âge, on se répète, donc ça, c'est pas un problème. Le verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Vous savez qu'à l'époque, ici, c'est Rome qui domine le territoire d'Israël. Palestine est occupée par ces Romains. Et ils sont des gens fermes, ils tuent leur ennemi, ils les crucifient. Ils mettent en esclavage les gens qu'ils veulent, dont ils veulent faire. Ils sont avec leur force là, ceux qui règnent au-dessus de tout. Et en lisant un peu pour préparer pour cette étude, j'ai lu ces choses qui disaient que le bébé n'était pas un bébé accepté dans la famille jusqu'à ce que le papa le prenne et l'accepte dans la famille. Okay? C'est-à-dire, si le papa disait après la naissance que cet enfant n'était pas à lui, alors on allait ce qu'on appelle exposer l'enfant. On allait le mettre dehors, okay, pour être en face des éléments. Et les bébés, donc, à ce moment-là, pourraient mourir ou devenir esclaves, être pris par d'autres personnes. Très intéressant, la miséricorde des chrétiens à l'époque, c'était de ramasser ces bébés et de les élever eux-mêmes. La même chose avec les mourants. La même chose avec ceux qui étaient atteints de peste et autres choses. Les chrétiens montraient continuellement de la miséricorde. Et dans ce contexte où le père, s'il accepte l'enfant, il vit, ou il rejette l'enfant et c'est pas grave. Donc l'enfant fait pas partie de la famille. Il y a Jésus qui dit heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Ce n'était pas quelque chose que les autres estimaient. Plutôt, c'était le pouvoir de dire, oui, tu fais partie de ma famille, tu fais pas partie de ma famille. C'était le pouvoir de dominer sur les autres. C'était le pouvoir de forcer les autres à faire quelque chose. Et là, Jésus dit, heureux les miséricordieux. Dans ce contexte où la miséricorde a été bafouée, Jésus appelle heureux ceux qui sont miséricordieux. Avec ceux qui cherche la justice. Nous avons ici deux choses qui motivent ces gens de l'époque qui sont prêts à écouter l'évangile. Une chose, il veut faire ce qui est juste et ce qui est bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut manifester cela à d'autres. Il veut être des gens qui, quand il faut pardonner, pardonnent. Il veut ressentir ce que les autres ressentissent. Et donc ici dans notre texte, nous avons cette idée de miséricorde qui est donnée. Quand vous lisez dans les différents documents qui parlent du texte, il y a des gens qui vont définir la miséricorde comme sensibilité à la misère d'autrui. Sensibilité à la misère d'autrui. Et c'est ça, cette idée de miséricorde souvent. C'est la compassion pour ceux qui ont besoin de cela. Il y a quelques années, donc j'ai eu trois mères dans ma vie, en dehors de ma belle-mère. Okay? Il y a ma mère qui m'a donné naissance. Il y avait une tante que j'appelais souvent une mère spirituelle. Et il y avait une autre dame qui s'appelle Glenna, qui était ma mère quand j'étais en Colombie pendant une année et demie. Et on avait cette relation donc d'affection de famille et qui était très importante. Et elle est décédée il y a une dizaine d'années en arrière. Mais avant qu'elle décède, quand j'ai appris qu'elle avait le cancer, je lui ai téléphoné depuis ici. Elle avait appris seulement 8 jours avant qu'elle avait le cancer. Et elle m'a dit au téléphone qu'elle n'avait jamais compris ce que c'était d'avoir le cancer avant de l'avoir elle-même. C'est-à-dire, elle avait contacté des gens, elle avait visité des gens qui avaient le cancer, elle avait préparé des repas pour ces personnes, elle avait même souffert avec ces personnes qui avaient le cancer. Je l'ai visité, elle a dit, je cite, je l'ai visité, je préparais des repas pour eux, mais c'est seulement maintenant que je comprends ce qu'ils vivent. C'est cette capacité donc de vivre cette empathie et sympathie de l'autre qui fait que je sais ce que l'autre est en train de vivre. La miséricorde ici a cela, mais a autre chose aussi. Dans la Bible, la miséricorde, c'est pas simplement l'empathie avec l'autre, mais c'est aussi le pouvoir de pardonner l'autre. C'est de pardonner ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit, les attitudes aussi de l'autre. C'est de ressentir la peine de l'autre envers vous et de dire « je te pardonne ». C'est la douleur du péché qui est soulagée à travers le pardon. C'est le pitié par lequel nous pardonnons les autres. Et pour cela, la miséricorde est très importante pour nous, parce que quand quelqu'un nous fait du mal, que voulons-nous faire? Nous voulons pardonner. Et il y a une seule raison pour cela. C'est parce que nous aussi, nous avons été pardonnés. Et Jésus commence cette discussion avec le principe que nous avons tous la même histoire. Nous n'avons pas tous le cancer, mais nous avons tous l'expérience de péché, du mal. Nous avons rendu notre Dieu triste, nous avons rendu les autres tristes, et nous savons tous le besoin que nous avons de la miséricorde. Vous savez que l'un des caractéristiques de Dieu essentiel, c'est sa miséricorde. Vous êtes au courant. Depuis le début, c'est le cas. Je lis, par exemple, ce que Paul dit quand il cite l'Ancien Testament. C'est dans Romains 9, 14. Il dit, « Car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il faut miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Bon, les gens disent, « Ah ben, Dieu, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Mais quand vous lisez les descriptions de Dieu, il dit, « Je punis jusqu'aux quatre générations le péché des parents, mais je bénis jusqu'à combien ? De mille générations celui qui m'obéit. » La miséricorde de Dieu, une miséricorde qui pardonne. Paul, quand il a parlé de sa vie, il dit, « J'étais blasphémateur, j'étais persécuteur des gens sincères qui cherchaient à connaître Jésus. J'étais un homme de violence. » Mais cet même homme a écrit, « Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Il dit, « Je sers d'exemple de miséricorde, que Dieu m'a pardonné à travers tout cela. » La miséricorde de Dieu. Quand nous lisons, par exemple, la lettre qui était écrite aux Hébreux, ces chrétiens juifs, nous lisons au Hébreux 4, le verset 15. Il dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Jésus dit donc à ces gens, « Heureux les miséricordieux, parce que vous allez recevoir la miséricorde de Dieu. » Alors, attention, attention. Ils n'avaient jamais entendu cela avant. Ce qu'ils avaient entendu, c'est que Dieu n'avait pas de miséricorde pour eux parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ils n'étaient pas assez purs. Ils n'étaient pas assez obéissants. Ils avaient appris, « Non, vous n'êtes pas les riches, vous n'êtes pas... » Non, c'est pas ça qu'ils avaient entendu. Ils avaient entendu quelque chose d'autre. Bon, pourquoi ils ont entendu ça? Est-ce Dieu qui leur avait dit cela? Non, c'était la structure religieuse de l'époque. C'était les pharisiens, les sadducéens. C'était ceux qui dominaient dans le temple. À tel point que nous lisons que Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 23 et 24. Écoutez ce que Jésus a dit. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté du reste. Conducteur aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. » C'est Jésus qui a dit cela. Il a dit ce que Dieu demande, c'est le droit, la miséricorde et la fidélité. Il demande la miséricorde des gens. Vous avez loupé l'essentiel, a dit le prophète dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas vos sacrifices. Il cherche la miséricorde entre vous. Vous savez qu'il y a une encre qui s'appelle l'encre de miséricorde. J'ai lu que c'était l'encre qui tenait le bateau à la terre ferme. C'est l'encre qui faisait en sorte que le bateau n'allait pas s'égarer. Et quand vous avez cette encre en vous qui vous tient, donc qui est la miséricorde, vous pouvez faire face donc aux difficultés qui sont là. L'essentiel, c'est de ne pas aller à la dérive et de perdre notre humanité en oubliant de pardonner, mais plutôt de montrer de la miséricorde aux autres. Vous savez que la miséricorde est vue par le monde comme la faiblesse, mais est une force, car elle reflète la personne de Dieu. Quand quelqu'un vous fait du mal, si vous êtes fort, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire du mal à cette personne. Vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Quand vous entendez que quelqu'un profite de vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous faites le nécessaire que ça n'arrive plus. Quelqu'un te frappe, bon, tu frappes au retour. Quelqu'un t'insulte, bon, tu vas trouver juste les mots pour dire qu'on insulte juste un peu plus. Quelqu'un est ton ennemi, bon, on va les empoisonner. Quelqu'un t'insulte, bon, on va trouver la façon. Mais vous vous souvenez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un te frappe, tu lui présentes l'autre joue. Quelqu'un t'insulte, tu le bénis. Quelqu'un est ton ennemi, tu lui donnes à boire. Quelqu'un t'insulte, tu pries pour lui. Et donc, nous voyons que Jésus dit, voici le cœur qui est prêt à écouter Dieu. Une personne heureuse est une personne qui sait pardonner. Et combien nous avons besoin de recevoir et de donner le pardon à d'autres personnes. Ceci nous fait penser à la parabole de Jésus. Au chapitre 18 de Matthieu. Vous vous souvenez de cette parabole? Il parle de quelqu'un, un roi qui avait prêté une somme énorme et l'individu ne pouvait pas repayer ses dettes. Il n'avait pas assez d'argent. Il lui aurait fallu 100 ans, 100 ans pour repayer cette dette. Et écoutez ce qu'il s'est passé dans Matthieu chapitre 18. Le serviteur se jeta à terre devant le roi. Il se prosterna devant lui et dit, Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. Bon, c'est un peu gonflé, je te payerai tout. Peut-être qu'il était bon, il pouvait parier, jouer aux cartes ou autre, mais il dit, je te payerai tout. Et le roi utilise son droit de créditeur. Et que fait-il? Il a remis sa dette. Et que fait le serviteur? Il trouve un ami qui lui doit une somme importante, c'est 2 mois de salaire. C'est beaucoup, mais c'est payable, mais c'est rien en comparaison avec tout ce que lui, il devait au roi. Et rien de tout en comparaison avec ce que le roi avait pardonné. Et que fait-il? Il prend cette personne par la gorge, il le secoue, il demanda son argent et écoutez ce qui s'est passé. Son compagnon se jeta à ses pieds. Et le supplier disant, prends patience envers moi et je te payerai. Ça fait écho? Vous l'avez entendu? Okay. Et le serviteur utilise son droit de créditeur. Et il le fait arrêter et le jette en prison pour payer la dette. Les deux ont exercé le droit de débiteur. Le roi a décidé de pardonner. Et celui qui a été pardonné a décidé de jeter en prison. Juste petite parenthèse, j'ai la peine à croire que cet homme qui n'a pas pardonné les 2 mois de dette là, qu'il était un homme heureux. J'arrive pas à croire. Je sais que ce n'est qu'une histoire, mais est-ce que vraiment il était heureux de faire comme cela? Bon, j'y crois pas. Le roi entend parler de cette histoire. Et il convoque son serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et le roi utilise son droit de roi et il fait jeter l'homme en prison pour le reste de ses jours. Miséricorde. Nous avons besoin de cela dans les relations que nous avons, dans le mariage, dans la relation que nous avons avec nos enfants, au travail entre collègues, entre amis. Et nous avons besoin de miséricorde dans l'Église. Nous avons besoin de cette capacité de se pardonner les uns les autres. Dieu offre la miséricorde à qui? Au miséricordieux. Le monde les voit comme faibles, mais ils vivent avec compassion, empathie et générosité. Car en vivant de cette manière, ils reçoivent une compassion et une miséricorde qui vient de Dieu. L'homme bienveillant fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. C'est Proverbe 11, 17. La miséricorde est une pensée qui change le monde. Cette grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ nous change. Et donc, heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. Je finis avec une citation écrite à Tite. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde de Dieu.